Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, c'est l'émission Territoire en mouvement. Aujourd'hui, direction la communauté de communes du Lot-des-Voies-Larzac avec deux invités. Nous avons autour de la table Prune Gasneau, chargée mission patrimoine pour le pays d'art et d'histoire pour le Lot-des-Voies-Larzac. Bonjour Prune.
Bonjour.
Nous avons également Nadège Tarol, chargée des publics, musée patrimoine. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Alors ensemble, on va parler beaucoup de l'été, les beaux jours arrivent et la programmation des animations et des actions sur le Lot-des-Voies-Larzac en termes de culture et de patrimoine sortent. Et donc on va pouvoir pendant cette émission faire un point assez détaillé de tout ça. Avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les grands axes que se donne la communauté de communes en termes d'animation culturelle ?
Alors, en tout cas, en Lot-des-Voies-Larzac, la politique culturelle s'articule autour d'un pôle du spectacle vivant, avec les saisons et résurgences que vous connaissez, autour d'un musée qui parle beaucoup du territoire, le musée de l'Odève, au projet scientifique et culturel, donc centré sur le territoire, mais pas que, également sur des expos artistiques. Et autour du patrimoine, avec un territoire fraîchement labellisé de cette année, Pays d'art et d'histoire, un label du ministère de la Culture qui couronne et valorise des actions de protection, de valorisation, de médiation de connaissance du patrimoine local, des patrimoines locaux au sens large.
Alors, on a cette chance d'avoir un territoire très riche, que ce soit d'un point de vue archéologique, paléontologique. D'ailleurs, il y a une réflexion en cours, enfin plus qu'une réflexion sur un géoparc dont nous allons faire partie, avec bien le musée qui a une place majeure, mais pas que, le festival aussi. Et à chaque fois, il y a des propositions pour un public très varié, sans oublier bien entendu un large programme pour les scolaires. Que ce soit au niveau de Pays d'art et d'histoire, que ce soit au niveau de résurgence ou que ce soit au niveau du musée, on a cette volonté de parler vraiment à divers publics. J'oublie pas tout ce qui est champ social aussi, mais j'en parle un petit peu moins là. Et du coup, on a choisi, par exemple, pour cet été, de cibler un petit peu dans un fascicule ce qui va se passer pendant 2 mois. Tout en sachant qu'à l'année, il y a d'autres choses qui se passent avec d'autres supports. Mais là, l'idée, c'était d'essayer de rassembler un peu l'ensemble de ces propositions sur un support pour que autant les gens du pays que les touristes qui ont cette opportunité de venir arpenter un petit peu nos paysages et découvrir notre patrimoine puissent justement avoir toutes les clés en main.
Donc ce guide, c'est un dépliant des animations de l'été qui sort ce mois-ci, courant du mois de juin, qu'on pourra retrouver dans plein d'endroits dissimulés ici sur le territoire. Donc c'est un programme qui regroupe les animations labellisées villes et pays d'art et d'histoire, ce dont vous parliez Prune. Celle proposée par le musée de l'Odève également, et donc les animations estivales organisées directement ou en partenariat avec la communauté de communes. Juste un petit point sur l'organisation de ce guide. Comment vous arrivez à travailler tous ensemble pour assembler toutes les informations au même endroit ?
C'est ça. Donc ce guide, il s'appelle Explorer, visite et animation en Lot-des-Voies-Larzac. Et l'idée, c'était vraiment de compiler le travail conjoint de plusieurs services. Alors, donc avec Nadège, on travaille souvent ensemble sur la question des publics et du volet de la programmation, des animations. Mais c'était également l'idée d'aller un peu au-delà de ce qu'on produit dans nos services et d'annoncer également des dates de festivals, les marchés de producteurs, de mettre un petit peu en avant, en fait, toutes les possibilités qui existent pour découvrir le territoire, pour tout type de public. Et donc voilà, c'était l'idée de sortir un petit guide estival. Là, c'est l'édition 1, c'est un peu le projet pilote. À voir pour la suite si on arrive à l'étoffer, peut-être même un jour à ajouter toutes les propositions des nombreuses associations du territoire qui proposent, qui ont des contenus scientifiques et culturels d'intérêt. Donc voilà, l'idée, c'est une première édition. Et l'idée, ce sera de l'étoffer au fur et à mesure des années.
D'accord, donc une proposition ouverte aux différents partenaires que vous avez en termes de culture.
Mmh. Oui, comme en effet, ça peut être un peu compliqué de travailler déjà en interservice. Là, c'était la première étape. avec un chapeautage du service com pour justement permettre ce dialogue. Et puis par la suite, on va voir déjà cette expérience-là, on va voir aussi la volonté des élus, mais bien sûr, plus on pourra montrer sur un support l'ensemble des propositions, et plus ça sera clair pour les gens qui traversent notre territoire ou qui y vivent.
Alors ce guide, ben, vous ne pouvez pas trop le manquer, il est rose, très graphique, avec le salagou comme ça, un peu de façon géométrique, donc il est assez visuel, je pense qu'il est bien visible. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose sur le graphisme.
Un choix graphique a été fait, a été donné une certaine liberté à une personne qui travaille la communication depuis bientôt un an, et il a choisi justement d'aller vers quelque chose d'assez créatif. Et en effet, on va pouvoir le remarquer au milieu de tous les flyers qu'on peut remarquer, notamment durant l'été. Et il a quelque chose d'assez frais et d'un peu onirique.
Exactement. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le détail de ces animations. Donc elles sont partagées en plusieurs thématiques. Il y a les visites, l'exposition, des ateliers, des animations, des festivals, des marchés et des activités de plein air. Je vous propose qu'on commence avec les visites.
Des visites. C'est l'été, il fait chaud, on a envie de se mettre au frais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, nous vous proposons par exemple de découvrir les ateliers de la manufacture de tapis de la Savonnerie au lieu du Mobilier National, annexe du Mobilier National. La manufacture nationale de tapis dit de Savonnerie est installée à Lodève depuis les années 60. C'est vraiment un lieu qui est un atelier de travail en fait, où des lissiers et lissières viennent chaque jour tisser des tapis sur des métiers de haute lisse. Que vous dire qu'actuellement il y a 5 tapis finis ou en cours de travail qui sont installés sur les métiers. Donc je peux vous parler par exemple du tapis Saint-Ange, qui est un tapis vraiment de style classique, qui est une commande de la chancellerie de la Légion d'honneur, qui est à la moitié de son travail, qu'on pourra découvrir, ou des œuvres beaucoup plus contemporaines, comme le tapis de Fabienne Verdier, artiste abstraite contemporaine, qui n'en est qu'à ses premiers essais techniques, ou encore le jardin d'eau de Stéphane Calais, qui est quasi fini. Il y aura également en présentation un tapis qui a été exposé dernièrement à Lodève, le tapis Terre de Marinus Boisem. Je ne sais pas si je dis bien le nom. Donc voilà, vous pourrez découvrir un atelier qui s'inscrit dans la tradition française, mais qui est également un axe résolument contemporain avec avec une adaptation d'artistes contemporains. Voilà, c'est un site vraiment d'exception qui attire beaucoup de monde à Lodève, qui est visitable tous les jeudis et vendredis, 5 créneaux par semaine. Voilà.
Bah, c'est un lieu vraiment étonnant parce qu'on a l'impression que le temps s'arrête. Réaliser un tapis, ça peut prendre... Alors, ça prend plusieurs années. Dès le départ, on est sur un temps long. Et c'est un travail de minutie, c'est un travail de colorimétrie. Et on a comme ça quelque chose où on porte une attention vraiment particulière à chaque détail. Et ce sont vraiment des tapis qui vont venir orner les plus grands hauts lieux de la France et qui vont venir porter aussi une histoire française. Et on a cette chance à Lodève, parce qu'il faut savoir quand même que sinon c'est Paris, hein, on a cette chance de pouvoir les visiter, de pouvoir... Alors, un petit peu lors de la visite, quelquefois discuter avec des lissiers. Les visites sont conduites plutôt par des guides conférencières qui sont là pour répondre aux questions. L'idée, quand les lissiers ont envie d'échanger, c'est pas un souci, mais c'est un lieu de travail. Donc souvent, c'est un lieu très calme avec une lumière magnifique et un bâtiment assez étonnant. J'invite vraiment à venir voir ce lieu, ne serait-ce que pour découvrir un métier, surtout qu'une formation débute. Dans ce lieu-là, à partir de septembre, il devient aussi centre de formation pour de futurs lycéens.
D'accord, c'est tout récent, cette formation ?
C'est la première. Il y a, c'est vrai, une difficulté quelquefois de recruter dans le Lodévois-Larzac des personnes qui sont formées souvent à Paris. Et donc là, il y a... j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un CAP qui commence pour en fait devenir lycée.
Directement
avec
sur
un emploi
place,
à la
c'est
clé,
royal.
Oui, c'est extraordinaire.
C'est une chance,
oui. Complètement.
Très bien, donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore allés visiter ce musée, c'est peut-être l'occasion d'y aller faire un tour cet été. On va continuer avec les visites au musée peut-être.
Alors on peut parler du musée, puis on reviendra sur le territoire après. De toute manière, le musée est complètement ancré avec le territoire. C'est un musée où il a été choisi de représenter trois parcours. Un parcours archéologique, un parcours paléontologique et un parcours sur l'artiste local Paul Dardet. Et en fait, il est vraiment lié à toutes les découvertes qu'il y a pu y avoir sur un territoire élargi, pas administratif. On ne présente rien qui viendrait d'un autre pays ou autre. C'est vraiment un musée lié à son territoire. Et c'est une manière aussi de redécouvrir ce territoire-là. Donc, parallèlement à ces parcours qui ont été quand même revisités il y a de cela 5 ans, qui sont tout neufs, avec une muséographie qui permet vraiment de comprendre les grands principes, de comprendre, par exemple, la période néolithique à la préhistoire, là où l'homme commence à devenir sédentaire, avec des petits films, des petits dessins animés qui sont très à la portée de tout le monde. On a aussi des animations. Toujours réalisé par les mêmes guides conférenciers que vous trouvez pratiquement sur le patrimoine, donc qui ont ce regard croisé entre le musée et le territoire. Et on a choisi plusieurs choses. On a choisi, par exemple, de faire les fake news de la préhistoire. Alors, les fake news, on en entend beaucoup parler de ces fausses informations. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, elles ont lieu notamment sur de l'histoire, puisque l'histoire se construit par rapport, notamment sur des périodes comme ça, très éloignées, des indices qu'on trouve. Et ces indices, quelquefois, peuvent être mal interprétés ou repensés. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on va venir démonter, qu'on pensait comme acquises. Et il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose. Et cette visite vient poser ces jalons-là. On a aussi des choses pour les enfants avec des ateliers qu'on a prévus le matin. C'est des périodes le matin, notamment pour des enfants à partir de 6-7 ans, où ils sont plutôt attentifs, ils n'ont pas encore trop faim, ils n'ont pas encore trop énervés. Et là, on a choisi tout un panel de choses à leur faire découvrir. Alors, on veut s'amuser au musée, mais on veut aussi faire passer des idées, des principes, quelques données. Par exemple, quand on va réaliser cet atelier de fausse fouille, c'est vrai, on va trouver des objets, on va fouiller dans le sable, mais on ne va pas fouiller n'importe comment. On va savoir comment un archéologue ou un paléontologue mène ses recherches et comment il va venir répercuter ses indices sur des fiches et ainsi de suite. On va pouvoir aussi faire, par exemple, une peinture rupestre sur des petites dalles qu'on a choisies, on va utiliser des pigments, on va s'interroger sur pourquoi ils dessinaient des animaux, pourquoi ils utilisaient ces pigments-là, est-ce que tout le monde dessinait ainsi de suite, où est-ce qu'ils le faisaient. Et puis, parallèlement à ces ateliers qui sont vraiment un temps défini, où souvent l'enfant va partir avec sa production, on a aussi dans l'après-midi plutôt des animations. Alors, ce qu'on appelle animation, chez nous, c'est vraiment des choses qui se passent dans les salles même du musée, où on est en contact avec les œuvres ou les objets présentés dans le musée, mais où on va avoir une visite autre qu'une visite classique. On va, par exemple, avoir la roulotte de la préhistoire. Nos médiateurs se présentent avec des objets de vrais silex ou des facsimilés, c'est-à-dire des reproductions, par exemple de parures ou d'autres éléments. Et là, ils vont en discuter, ils vont en parler avec les familles qui sont autour d'eux ou les adultes. Et l'enfant, la famille, va même pouvoir manipuler une reconstitution d'une hache polie d'un paysan à cette époque-là. Donc, on vient donner aux objets qui sont derrière les vitrines une véritable vie. On vient lui redonner un espace et ainsi passer de l'objet scientifique à l'objet qui a été utilisé et témoin d'une civilisation ou d'un moment de vie. Alors, je parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je suis désolée. On peut m'interrompre. Et on fait... Alors, comme on souhaite vraiment s'amuser, on fait aussi des escape games. Voilà, ou des murder parties, Faut dire que cet été, on a une très belle exposition qui débute, qui s'intitule Psychose. Cette exposition, c'est notre exposition événement. En effet, un étage entier, un plateau est consacré aux événements temporaires, des expositions souvent fin 19e, début 20e siècle. Et là a été choisi de présenter le lien qu'il y a entre l'expressionnisme allemand, alors le second expressionnisme, mais je ne vais pas aller plus loin, et le début, on va dire, des films d'horreur. Ils sont muets, il y a à cette époque-là pas encore beaucoup de moyens, et pourtant ils font preuve d'une force dans le jeu de la lumière, des suggestions, des ombres, et ainsi de suite. Ils sont vraiment à la naissance des films d'horreur qu'on connaît maintenant, et on ne pouvait pas passer à côté de cette exposition sans essayer de faire une murder party, par exemple. Donc, c'est une exposition, c'est vrai, où on a choisi de faire des choses plus pour un public adolescent, jeune adulte ou adulte. On a préféré se concentrer sur ce public-là parce que, tout simplement, il y a des images fortes, quelquefois, qui peuvent faire peur aux plus jeunes. Mais surtout, il y a une ambiance qui est extraordinaire. Et ce lien entre les œuvres et des extraits de films qui parsèment l'exposition est tout à fait évident quand on vient traverser cette exposition-là.
Est-ce que, Nadège, vous pouvez nous rappeler ce qu'est une murder party ?
Alors, une murder party, c'est en fait trouver qui a assassiné une personne. Celle-ci, on l'a basée, c'est une enquête, hein. Celle-ci, on l'a basée sur le jeu du loup-garou, qui est un jeu assez connu et répandu, sur lequel, justement, bah, chacun a un rôle à tenir. Et il va falloir découvrir qui est le monstre à ce niveau-là. Donc, qui est le monstre qui habite ces films-là, qui habite cette ville. Donc, il y a tout un synopsis qu'on a construit là-dessus. On a même choisi de faire cette animation gratuitement. Il n'y a que les droits d'entrée au musée, car on voulait vraiment générer une envie, mais aussi un regard, un attrait sur cette exposition qui, au départ, peut-être effrayer. Alors, pas dans le sens de la peur qu'on cherche dans les films d'horreur, mais dans le sens de « je vais peut-être pas comprendre ce qui se passe ».
Et pareil pour l'escape game, c'était ça aussi l'idée de faire venir comme ça des groupes dans le cadre de cette exposition bien précise.
Alors l'escape game, lui, il est sur notre fond permanent dédié aux sciences de la Terre. Non, là, on va chercher un objet qui est caché, on va répondre il faut trouver un coffre avant l'heure définie, sinon vous avez perdu. Alors on ne peut pas fermer une salle du musée parce qu'il y a des histoires de parcours, mais là l'idée c'est vraiment d'un escape game, il faut trouver le coffre, sinon ça ne marche pas.
Et bon, on donnera bien évidemment à la fin de l'émission tous les contacts pour s'inscrire, etc. Mais du coup avec ce que vous nous donnez Nadège, on peut tout à fait imaginer passer la journée entière au musée en fait.
Alors, entre la programmation sur le musée et la programmation sur Pays d'Arrêt d'Histoire, on peut passer la semaine sur le Lodévoir-Larzac, parce qu'il y a quelque chose qui se passe tous les jours et c'est quelque chose de différent. C'était un peu l'idée, même si on s'adresse à quelquefois, selon les animations, à des publics variés, c'était l'idée de piocher, de goûter la culture, le territoire et de le découvrir par ces différentes animations.
Juste pour terminer sur l'exposition Psychose, quand va-t-elle être ouverte au public et jusqu'à quand on va pouvoir aller la visiter sans dire trop non plus, parce que je vous invite à rester à l'écoute de RPH et RPH Sud parce qu'on va faire un petit quelque chose sur cette exposition.
Alors elle commence le 15 juin et finit le 15 septembre et je peux parler d'ores et déjà d'une soirée cinéma qui a lieu le 28 juin à 20h30 au cinéma Luteva où on passe le film Nosferatu le vampire, film de 1922, c'est le premier film de vampire donc intéressant à voir. Il faut savoir que dans l'exposition on ne passe que des extraits de films, donc là voir le film en entier c'est toujours un moment prenant.
La date est notée. Merci Nadège pour les animations, visites et ateliers du musée. Est-ce qu'on a fait le tour pour le musée de l'ODEF ?
Alors, il y a encore plein de choses, mais j'ose pas monopoliser la parole. On a aussi, par exemple, proposé ce qu'on appelle un paléolabo. Alors, dans le musée, on a choisi, nous, d'être au plus près des objets. Du coup, on circule avec du mobilier mobile. Et dessus, par exemple, là, on a installé des lampes-loupes, différents éléments pour pouvoir justement observer des fossiles, s'interroger sur la classification du vivant. Donc, on va là encore aborder une autre face de nos collections qui est une face beaucoup plus scientifique. Mais à chaque fois, on simplifie les propos, on les rend accessibles au plus grand nombre et surtout, on se munit de vrais fossiles, d'objets que l'on peut toucher, manipuler au regard de ceux qui sont dans les vitrines qu'on ne peut pas toucher pour différentes raisons, notamment parce qu'ils sont majeurs pour montrer un temps donné ou une espèce donnée.
D'objets de vitrine, mais il y a aussi les objets qu'utilisent les archéologues pour justement retrouver ces objets en question, ces outils plutôt du coup.
Complètement d'ailleurs, dans la partie consacrée à l'archéologie, il y a une vitrine qui est consacrée sur des outils qu'on a pu utiliser, qu'ils ont pu utiliser à une époque donnée ou qu'ils utilisent encore. Hein. Donc bien entendu, il y a l'ensemble de ces éléments-là.
Et une dernière animation dont on n'a pas parlé je crois, c'est Petit ours des cavernes.
Alors, quand je dis qu'on veut parler à tout le monde, on veut vraiment parler à tout le monde, même aux tout-petits qui ont 2-4 ans, parce qu'entrer dans le musée, c'est vraiment un lieu où on peut chacun découvrir quelque chose à son niveau, ne serait-ce que d'observer, de s'interroger, d'être curieux. Et l'idée, c'était vraiment d'inviter les plus jeunes à passer cette porte. On va raconter là une histoire sur un ours qui vit dans une caverne. On est là encore à la période plutôt du néolithique. On ne va pas prononcer ces mots un peu barbares auprès des tout-petits, mais on va tout simplement faire passer l'idée qu'à cette époque-là, eh bien, il se passait des choses différentes de notre époque. Aujourd'hui, on ne vivait tout simplement pas de la même manière. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Et tout ça se fait sous la forme d'une histoire, mais aussi de petites expériences en pâte modelée qu'on va faire ensemble. Donc c'est très, très ludique.
Merci beaucoup. Pour le musée de l'ODEV, on peut peut-être donner le site internet du musée ou les informations pour s'inscrire si on écoute l'émission et qu'on souhaite se rapprocher d'un atelier ou d'une visite.
Oui, alors il ne faut pas hésiter à aller sur le site du musée ou celui de l'Office du tourisme parce qu'on a cette chance d'avoir une billetterie commune et du coup, on peut justement faire son panier sur l'un ou l'autre en ayant l'ensemble de la programmation. Il faut savoir aussi qu'au musée, un billet vous donne accès au musée sur l'ensemble de la journée, même si on ferme entre 1h et 2h. Et c'est assez agréable quelquefois d'aller manger un morceau, manger une glace, de revenir après. Parce que si on souhaite faire tout le musée dans la journée, ça peut être très très dense. J'ai tendance à conseiller plutôt de faire des choix. Il est quand même assez grand, avec beaucoup, beaucoup de données. Et si vous faites la paléontologie, l'archéologie, l'exposition temporaire et l'espace dédié à Paul Dardé...
Un petit atelier en plus au milieu de tout ça.
Voilà, je pense qu'il faut aller boire un café entre deux.
Très bien, merci beaucoup Nadège. On va continuer avec les visites avec un jardin ici sur l'ODEV, je crois. Les jardins de mon plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Finalement, le mot jardin est assez faible pour le domaine que nous allons vous présenter parce que le domaine de mon plaisir, c'est vraiment un site immense, d'exception avec des arbres majestueux. Donc, c'est bien plus qu'un jardin, c'est vraiment un ancien domaine agricole qui est fermé au public, qui appartient à un particulier, qui nous ouvre ses portes tous les mardis à partir du 16 juillet jusqu'au 20 août. Donc, que vous dire, c'est un endroit personnellement que j'aime beaucoup car la végétation et le côté arboré du parc est vraiment exceptionnel, surtout pour le sud de la France où nous vivons. Il y fait frais l'été, c'est pour ça notamment qu'on voulait le proposer à la visite. Et puis on a toujours un petit plaisir à aller dans un site fermé au public. Aujourd'hui, le domaine de mon plaisir, il accueille une production viticole, donc il est en activité, mais c'est vrai que rares sont ceux qui peuvent y pénétrer. Donc ce jardin, ce domaine en tout cas, il est étroitement lié à l'histoire lodévoise, domaine agricole. Il a aussi accueilli une filature sur la partie un peu tardive dans l'histoire des filatures locales. Donc il a été aménagé pour comment dire, canaliser le parcours de l'eau jusqu'à la manufacture qui était installée à l'intérieur. Donc, vous verrez, quand vous pénétrez dans le jardin, il y a bien sûr le côté arboré, et puis il y a tout le parcours de l'eau, puisqu'il est à la confluence de deux rivières, dont la Soulondre, et c'est vraiment un lieu incroyable.
Qui se situe où
Alors, pour y aller, attention, l'accès n'est pas forcément évident. Il faut aller se garer à une patte d'oie sur la route de Bédarieux et des Plans, un croisement.
Oui, c'est ça.
Et ensuite, il faut longer la route à pied. Donc, c'est une route bordée de platanes, il faut faire attention. Et pour accéder au grand portail. Mais le rendez-vous est donné sur le petit parking à la patte d'oie des route de Bédarieux ou des Plans.
D'accord.
Sur la départementale.
Donc on aura un mois entre mi-juillet et mi-août pour découvrir...
C'est ça, 6 rendez-vous.
6 rendez-vous quand même.
Oui, donc une guide conférencière vous accompagne bien sûr pour vous raconter l'histoire liée à ce lieu incroyable. On vous propose aussi un autre temps sur l'Audève, une visite théâtralisée. Donc il faut savoir qu'à l'Audève, il y a vraiment une tradition de la visite théâtralisée, enfin un historique autour de ça. Et je crois que c'était attendu par les habitants et habitantes de pouvoir revivre des visites un peu spectacle. Donc là, c'est Marie-Christine Chojnaka, une riche polonaise en résidence à l'Audève en 1756, qui vous accueille en costume. Marie-Christine Chojnaka est dans le Boudra, donc c'est tous les mardis à 18h. C'est la guide conférencière Caroline Lejeune qui a construit ce propos et inventé ce personnage pour vous permettre de partir à la rencontre de l'Audève au XVIIIe siècle. Et notamment mieux comprendre le quartier cathédral, comment fonctionnait l'ordre des chanoines, comment fonctionnait la ville à cette époque-là. C'est une visite assez hilarante, où on se fait prendre à partie et où nous, plèbes, avons droit au discours de cette noble polonaise. Et c'est assez jouissif. Voilà.
Et pour les auditeurs, auditrices qui n'ont jamais fait de visite théâtralisée, qu'est-ce que ça apporte en plus qu'une visite plus traditionnelle, entre guillemets ?
Oui, c'est vraiment l'incarnation d'un personnage et du coup, l'invitation à un récit personnalisé. Et puis tout au long de la visite, donc la guide conférencière va vraiment au-delà de l'histoire et des faits historiques, elle va vraiment venir titiller le public quand il est réactif. Ça va vraiment pouvoir être des scènes assez comiques. Donc c'est une visite qui est un petit peu à géométrie variable au gré des groupes et de la météo du jour, un peu d'une certaine manière.
Puis c'est un rythme différent avec un vocabulaire totalement différent. On est plus sur une portée historique. Là, on vit le personnage. On se retrouve pratiquement au XVIIIe siècle. Donc, on bondit dans le temps.
Cela dit, ça n'empêche pas que l'écriture de cette visite théâtralisée est vraiment historiquement vérifiée et qu'elle nous apporte tout un tas d'informations. Et d'ailleurs, complémentaire aux visites un peu traditionnelles de la ville, ouais. Parce que...
Notre point de vue, notre façon de voir les choses.
Tout à fait.
Merci beaucoup pour l'aspect visite. Alors, il y a aussi des visites en plein air. Là, on était un peu dans le centre-ville de l'Audève.
Voilà, sortons un peu de l'Audève. Quand Nadège disait qu'il y en avait pour toute la semaine, effectivement, on peut, si on passe une semaine de vacances en Lot-et-Voie-Larzac, on peut passer du temps à l'Audève, autour du musée, autour de ses commerces, profiter des restaurants et des visites dans l'Audève. Et puis nous, on voulait vous amener sur des sites un peu emblématiques du Lot-et-Voie-Larzac. Donc on a décidé de faire une proposition les mercredis autour du cirque de Navacelles. Donc ce sera pareil, 6 mercredis à partir du 17 juillet, avec la visite, la balade commentée, l'incroyable cirque de Navacelles. Donc là, beaucoup de gens connaissent ce grand site de France, mais là, l'intérêt vraiment, c'est qu'une guide conférencière vous permet de comprendre, d'apprendre à lire en fait ce paysage, que ce soit pour sa partie géologique, mais également hydrogéologique, et aussi la dimension agropastorale et l'implantation de l'homme sur le territoire, car ce paysage assez éclatant qu'on regarde, qui nous semble, on va dire, naturel, c'est aussi une construction humaine qui a été travaillée par des millénaires de pratiques et d'implantation de l'homme sur le territoire. Donc c'est ce que la guide conférencière pourra développer et ça permet de porter un nouveau regard sur les paysages qui nous entourent. Donc ça, c'est la visite sur le COS. Et d'ailleurs, on disait que le guide présente également des marchés. Par exemple, les mercredis, c'est possible le matin d'aller au cirque de Navacelle, de faire sa journée sur le COS du Larzac. Et le mercredi soir, au Quai Lard, à partir de 18h30, on peut rejoindre un marché de producteurs avec dégustation de vins locaux, marché nocturne en fait. Les jeudis, on va complètement au sud dans la plaine du Lot-des-Voies-Larzac, donc dans les plaines rouges de Ruf Rouge. On va bien sûr au bord du Salagou, que tout le monde connaît, qui attire beaucoup d'estivaliers. D'estivants, je sais pas comment on dit. Donc là, c'est notre guide conférencière Muriel Rudeau qui a travaillé une visite pour présenter la formation également de ce paysage, donc de son point de vue paysager et naturel. Donc la géologie, bien sûr, le site du Salagou se situe au cœur d'un géoparc en construction. Donc c'est vraiment un creuset géologique avec l'observation à ciel ouvert d'époques géologiques importantes. Donc c'est une première manière d'aborder ce grand paysage. La seconde manière de l'aborder, c'est la création de ce lac. Qu'est-ce que c'est que ce lac? Comment s'est-il construit? Quelle a été la décision qui a amené à passer d'un petit ruisseau à un lac? Et puis également, cette visite vous permettra de découvrir le renouveau du hameau de Sel et de mieux comprendre quels enjeux connaît cette commune atypique d'un point de vue de l'aménagement et de l'habitat. Donc ça, ce sera tous les jeudis. On a prévu la visite assez tôt, à 9h30, il fait chaud. Donc je sais, c'est l'été, on a envie de faire la grasse matinée, mais en même temps, quand on dort dans sa tente, qu'on est réveillé par la chaleur, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une visite guidée des volcans au lac, le Salagou.
Le Salagou, hein, avec le cirque de Mourez, je le rappelle, grand site de France en devenir, hein, puisque la commission européenne, la commission supérieure du ministère de l'écologie a rendu un avis favorable pour que ce site reçoive le label grand site de France. Donc dans quelques mois, je crois, ce sera a priori officiel. Voilà pour les. Alors il y a d'autres sorties en plein air, hein, qui sont proposées, des activités sportives de plein air sur ces grands sites. On peut tout retrouver sur le site tourisme-lodévois-larzac.fr. On a parlé rapidement des marchés. On peut peut-être citer les villes qui sont concernées par les marchés de producteurs.
Oui, des marchés. Il y en aura à Soubesse les lundis à 18h30, Lodève les mardis à 16h, Saint-Maurice-Navacelle les mardis également de 17h à 22h. Au hameau de Navacelle et au Quai Lard les mercredis à partir de 18h30. Et c'est vrai que toutes ces informations, on peut les retrouver sur l'office de tourisme et également pour réserver sa place dans les visites guidées ou les balades commentées, il faut se rendre sur le site de l'office du tourisme ou directement à l'office du tourisme. Parfois, c'est un peu plus simple.
Et pour terminer, je vous propose qu'on finisse sur les festivals. Donc il y a trois festivals qui sont portés ou soutenus par la communauté de communes du Lot-des-Voies-Larzac. Le premier, on en parlait tout à l'heure, évidemment, c'est Résurgence, qui est sur le Dev du 18 au 21 juillet. Est-ce qu'on peut dire peut-être deux, trois mots si des personnes tombent sur cette émission et ne connaissent pas du tout le festival Résurgence?
Alors, c'est un festival d'art vivant qui se déploie sur l'ensemble de la ville avec des propositions toujours très hétéroclites et qui permet justement... Alors, il y a des propositions tout au long de la journée, tout au long de... et assez tard en soirée. La plupart sont gratuites. On peut passer, là encore, sa journée à circuler d'un lieu à un autre et se restaurer sur place puisque des guinguettes sont installées à cette occasion-là. Et c'est une manière vraiment de mettre à l'honneur cet art vivant un peu sous toutes les coutures avec aussi souvent des propositions participatives. Donc, il faut se tenir au courant un petit peu sur le site de Résurgence, si on a envie aussi de ne pas être que spectateur, mais d'être aussi participatif.
Et à savoir que Résurgence, tout comme le patrimoine ou le musée de l'Odève, nous avons une programmation à l'année qui diffère un peu de ce qui est proposé dans l'été, que ce soit les saisons, les dimanches du patrimoine ou les animations des vacances au musée de l'Odève et des visites guidées régulières. Deuxième festival, le Rock Castel.
Alors, le Rocastel, lui, il est sur le Kélar. Le Rocastel, c'est... Alors, en tout cas, c'est ce grand rocher qui surplombe le Kélar, où on peut monter dessus pour avoir une vue magnifique du plateau. Et le festival, lui, il est juste après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se faire presque 3 semaines de festival entre chacun. Et du coup, lui, se situe du 25 au 28 juillet. Directement derrière, il y a celui de Remise à Neuf qui est à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Là, on redescend un petit peu dans la plaine. Saint-Jean-de-la-Blaquière, on se situe là encore au milieu des rues Feu Rouge. Et c'est là encore un troisième festival. L'ensemble de ces festivals parle vraiment d'art vivant. Alors, ils ont chacun leur identité propre et c'est ce qui est très intéressant à les vivre. Ils ont aussi une taille différente. Certains sont plus intimistes, d'autres brassent un peu plus de monde. Et c'est pour les avoir vécu un petit peu, c'est intéressant justement d'essayer de les vivre tous les trois, au moins une soirée ou une journée.
Oui, le Rocastel a une thématique spécifique sur le voyage lent, avec des récits de voyage à pied, à cheval, en parapente.
la mobilité douce.
Tout à fait.
Okay. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce guide. Alors, il reste d'autres activités à découvrir sur le site internet que vous avez donné tout à l'heure, donc l'Office du Tourisme notamment. Alors, peut-être on peut redonner les contacts.
Oui, alors le site internet www.tourisme-laudevoye-larzac.fr, à savoir qu'il y a des tarifs préférentiels pour les habitants et habitantes du Laudevoye-Larzac, donc à se renseigner, c'est le tarif réduit. Et le numéro de téléphone, je le cherche, voilà, 04 67 88 86 44. L'Office du Tourisme se trouve à Laudève, mais elle a également une annexe à la Baume-Auriol, donc devant le belvédère du cirque de Navacelles. Et elle a des points d'information relayés par les campings, les gîtes, les hôtes. Voilà,
très bien. Si vous trouvez sur votre chemin les programmes de ce guide dont on vient vous énumérer pas mal de choses, bah, n'hésitez pas à vous servir, à piocher dedans et à organiser votre petit programme à vous. Donc il est tout rose avec une belle photo du Salagou en effet miroir, très graphique. Voilà, vous ne pourrez pas le manquer. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc je rappelle que vous êtes Prune Gasnaud, chargée de mission patrimoine pour le Pays d'Art et d'Histoire pour le Laudevoye-Larzac, et Nadège Tarol, chargée des publics, musées et patrimoine.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
C'était Territoire en mouvement. On se retrouve très bientôt sur les ondes de RPH et RPH Sud.